Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Sidonie.
Ah, vous présentez le JT maintenant.
Tout dans l'ordre.
Bonsoir Thomas.
Non, c'était Madame, Monsieur, bonsoir.
Oui, c'est vrai, ça fait du bien. Salut les curieux, j'espère que vous allez bien ce soir. C'est pas pour nous vanter, mais encore, super programme.
Bah, comme tous les soirs d'ailleurs, non, on se vante pas. Qu'est-ce que vous avez, tiens, dans votre hôte de Maman Noël?
Un roi, mais pas n'importe lequel. Le roi Soleil, Louis XIV, mort il y a 300 ans après 72 ans de règne. De nombreuses idées reçues circulent sur lui. Eh ben, on va les démonter, on va les décrocher, on va leur faire la peau à ces
idées
reçues. Ouais, voilà.
Et puis peut-être que vous n'avez pas encore trouvé les cadeaux de Noël idéal. On va vous aider.
Il reste un jour.
Des idées de cadeaux, ouais, faut aller vite. Pour vos enfants ou vos petits-enfants, leur offrant pourquoi pas des jeux ou des jouets cultes qui ont fait leur preuve et donc ravi plusieurs générations.
Et tout de suite, à deux jours du 25 décembre, on vous dit tout sur cette fête de Noël.
Oh Christmas tree, RTL.
Petit Papa Noël.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Impossible d'échapper à Tino Rossi, forcément, près de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, soit le tiers de l'humanité quand même, s'apprête à célébrer Noël. On en est très heureux, on va commémorer évidemment la naissance de Jésus. C'est quoi? C'est le jour de fête par excellence. Fête de joie, d'espérance, de paix, partagée souvent en famille. Mais quels sont les
origines? Un petit chocolat chaud, Thomas, vous pouvez partager. Ouais, voilà,
parce que j'ai la voix un peu... J'ai un petit voile, là. Quelles sont les origines de cette célébration? Je bois un peu de chocolat.
En fait, c'est du vin chaud, pardon, je me suis trompée.
Ça va pas m'arranger. Pour le savoir, vous voyez, dès que je bois un peu de vin chaud, je bafouille. On reçoit Pierre Baron, notre consultant en histoire. Bonsoir Pierre, bienvenue.
Bonsoir Pierre.
Alors, quelles sont les circonstances exactes de cet anniversaire quasiment universel? Et déjà, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Ne dites pas non.
Pas vraiment. En fait, les sources et les évangélistes, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Et Jean.
Aucun de ces quatre-là ne précise dans les évangiles la date de la naissance de Jésus. Aucun. L'un d'entre eux, c'est Luc qui mentionne que les bergers dormaient dehors cette nuit-là dans les champs. Bon, très bien. Ce qui signifie que nous sommes vraisemblablement au printemps ou en été, parce que pour ceux qui connaissent un peu la région Palestine, on ne dort pas à la belle étoile l'hiver. S'il fait frais quand même.
Donc ça, c'est un bon indice déjà.
Ça, c'est clair. Mmh. Ensuite, il n'y a pas de source officielle, encore une fois, sur les quatre évangiles. Pendant des siècles, les pères de l'Église ont balancé un petit peu dans le passé. 8e, 11e, 12e, 13e siècle, ça a beaucoup discuté entre esprit érudit sur cette date. Certains penchaient pour le 25 ou le 28 mars, donc printemps, quoi. Mmh. Et d'autres pour le 19 avril, soit encore pour le 20 mai, d'accord? Bon, c'est vrai que c'est très, très aléatoire. Mais il faut savoir une chose très importante. Jusque pratiquement avant le 4e siècle, les chrétiens ne célèbrent pas la naissance de Jésus.
Ah, c'est pas un événement,
c'est pas du tout.
C'est pas une fête.
Pendant près de plus de 400 ans, l'Église n'accorde strictement aucune importance à ce qui est pour elle une péripétie. La naissance de Jésus dans les débuts de l'Église catholique et romaine, ce n'est pas un événement important. Ce qui est un événement important, c'est la manifestation de Jésus. Mais ce n'est pas la date de naissance. Mmh. Alors, et les circonstances, pardon, Sidonie, de sa naissance.
Alors Pierre Baron, comment on est passé du printemps ou de l'été, période probable, à l'hiver pour célébrer Noël?
Ah ben ça, c'est assez amusant. Parce qu'en fait, ce sont les Romains, c'est-à-dire les païens, qui sont à l'origine du choix du 25 décembre. Au 3e siècle de notre ère, donc après Jésus, on verra que c'est plus ou moins après, l'empereur Aurélien décide de fédérer tous les peuples de l'Empire. Il va donc institutionnaliser d'une certaine manière le culte solaire, sol invictus, en latin le soleil invaincu. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va construire un grand temple sur le champ de Mars à Rome et on va décréter que le 25 décembre, eh bien, c'est la date anniversaire majeure du calendrier païen pour célébrer le soleil. C'est pas un hasard du tout.
Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, les jours se rallongent un petit peu. C'est
exactement,
ça.
Thomas. À partir du moment où on arrive au solstice d'hiver, c'est le début du renouveau. Et donc, le 25 décembre, c'est le début de la renaissance et de l'allongement des journées. Et donc, du soleil.
Donc, c'est une fête païenne.
C'est une fête majeure païenne. Et alors, attendez, parce que c'est un peu plus... Encore, il y a une deuxième couche du ripolin. C'est-à-dire que vous avez donc Sol Invictus, et puis vous avez une autre religion à Rome qui, au troisième fait, fait un tabac. Mm-hmm. Qui est une religion qui célèbre un dieu d'origine iranienne qui s'appelle Mitra. Et cette religion est très, très, très pratiquée, avec beaucoup de ferveur, notamment chez les militaires, chez les légionnaires romains, avec quelques similitudes avec le christianisme, notamment parce qu'elle promet aux fidèles la béatitude universelle, notamment qu'elle est basée sur des vertus de loyauté, de fidélité, etc., de fraternité. Donc on retrouve quelques ingrédients, on va dire. Le mithraïsme est une religion, encore une fois, très en vogue. Attention, elle était pratiquée depuis plus de 1000 ans. Hein. On est à 1500 ans avant la naissance de Jésus.
Et donc là, on rappelle, 3e, 4e
c'est
siècle
ça, on est 3e,
après la naissance de Jésus.
On est 3e siècle.
3e siècle.
Et ces deux dieux, d'une certaine manière, ces deux cultes vont, d'une certaine manière, se mêler, fusionner, se mélanger. Il va y avoir une espèce de confusion volontairement entretenue. Mais dans les deux cas, on va les célébrer le 25 décembre. Alors vous allez me dire, ben oui, mais alors... Quel rapport avec Jésus?
Oui, parce que vous nous avez dit que c'était un empereur romain qui prend cette décision.
Oui, tout à
c'est,
fait.
C'est qui déjà?
C'est Tibère. C'est Aurélien, pardon.
Aurélien,
c'est Aurélien.
D'accord.
Donc là, on ne parle pas de Jésus-Christ.
Non. Et alors, pourquoi tout d'un coup, on va passer, nous, à cette date du 25 décembre? Parce que précisément, Mitra ou Sol Invictus, comme vous voulez, les deux, bah, sans jeu de mots avec le soleil, ça commence à faire un peu d'ombre à la naissance du christianisme.
C'est une histoire de concurrence.
Donc l'Église se dit, mais on va donc implanter la naissance de Jésus au moment où l'ensemble des peuples de l'Empire romain marquent un événement majeur de leur calendrier païen. Et donc c'est à ce moment-là que le 25 décembre est choisi comme date de naissance de Jésus, de célébration de la naissance de Jésus.
Mais sans se préoccuper de la réalité historique, puisque vous nous avez expliqué que selon les quelques indices donnés par les évangélistes, ça s'est plutôt passé au printemps. Mais ça gêne pas l'Église.
Non, encore.
C'est le symbole qu'on marque.
Ce qui est important, c'est la venue de Jésus. Et la question de savoir s'il est né le 10 octobre, le 15 avril de notre calendrier, qui, comme vous le savez, a énormément évolué dans les siècles, elle est totalement secondaire. Ce qui est important pour les chrétiens, des débuts et des commencements, c'est que Jésus est apparu. Comment il est apparu, quel message il a.
Donc, c'est-à-dire qu'en parallèle, en même temps, on a Mitra, Sol Invictus et Jésus-Christ le 25 décembre.
Voilà, à la fin du 3e siècle, il y a une espèce de fusion et l'Église reprend cette date du 25.
Jésus n'est donc pas né un 25 décembre, mais est-il bien né en l'an 0 de notre ère? À moins que Jésus ne soit né avant Jésus-Christ. Pouah, ça se complique,
c'est une
curiosité. Mais notre invité Pierre Baron, évidemment, va voir la lumière dans quelques instants.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité avec notre consultant en histoire, notre sociétaire Pierre Baron. On remonte aux origines de Noël. Vous nous avez dit il y a un instant que selon toute vraisemblance, Jésus n'était pas né un 25 décembre. Et alors son année de naissance, l'an zéro de notre ère, est-ce qu'elle est erronée elle aussi?
Ah oui, il y a de grandes chances aussi.
Vous mettez tout par terre là.
Bah oui,
Pierre,
c'est dur quand même.
Je suis vraiment désolé, c'était mon petit cadeau de Noël.
Sympa.
Non mais c'est bien parce qu'on apprend, on découvre énormément de choses grâce à vous ce soir.
Mais encore
je ne soupçonnais pas une minute que ce soit possible. Donc l'an zéro.
Non, l'an zéro c'est faux parce qu'en fait Matthieu dit que Jésus est né sous le règne d'Hérode, Hérode le Grand. Seulement voilà, Hérode lui il meurt en l'an 4 avant JC, avant Jésus pour nous. D'accord? Donc c'est pas possible. Jésus est donc né historiquement avant Jésus d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est né probablement en l'an 5 ou 6 ou 7. Il y a un événement assez précis dans la Bible, il y en a plusieurs hein, qui permettent de situer ça. C'est sans doute, vous allez voir assez vite à quoi je fais allusion, c'est le massacre des innocents. C'est-à-dire qu'Hérode décide d'assassiner tous les enfants de moins de 2 ans peu après la naissance de Jésus. C'est assez un parallèle d'ailleurs avec l'Ancien Testament et Moïse. Or, cet événement-là daté permet de dire que Jésus peut être né en 5, en 6, en 7, mais certainement pas en l'an 0.
C'est aussi clair que ça. D'où vient cette erreur?
Ah ben alors
d'un
le
homme d'église, d'un oui, savant.
Oui, oui. C'est un homme d'église. Le fautif, c'est un moine. Il s'appelle Denis, avec un Y, le petit. On l'avait surnommé comme ça. Et en fait, il avait toujours pareil, quoi. Il avait des intentions louables, cet apprenti historien. Mais il voulait déterminer, par les savants calculs, l'origine exacte du christianisme, l'avènement de Jésus, par rapport à l'Empire romain. C'est-à-dire, il s'est un peu pris les crayons, si j'ose dire, il s'est un peu embrouillé dans ses calculs. En plus, il a commis une erreur que tous les mathématiciens, mais je vous rassure, on va faire simple, connaissent. Il nous a simplement oublié l'année 0, parce qu'entre moins 1 et plus 1, il y a forcément une année 0.
Bah oui.
Donc, tout
oh
la bourde.
Eh oui, c'est complètement décalé, il y a forcément une année 0.
Même nous, on est nuls en maths, on ne l'aurait pas fait.
C'est vrai que Thomas, on ne serait pas bourré sur
voilà pourquoi, depuis 2015 ans, on est décalé. Bon, c'est pas grave, tout le monde fait avec, évidemment.
C'est-à-dire qu'il a fait démarrer notre ère à l'an 1, d'une certaine façon, c'est
ça ? Oui, il a déjà perdu une année, et dans ses calculs, il s'est trompé au moins 5-6 ans facilement, ne serait-ce que parce qu'encore une fois, Jésus ne peut pas être né en l'an 0.
Et personne n'est revenu sur cette erreur.
Pas du tout. On a entériné l'erreur de Denis le Petit.
Ouais. D'accord.
Pierre Baron, donc vous mettez tout par terre, hein. la date de naissance, l'année de naissance, et puis aussi bah, le lieu de naissance, Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est fiable ou est-ce qu'il faut aussi la remettre en cause ?
Je ne sais pas si vous allez me garder encore longtemps, mais en fait, c'est aussi extrêmement douteux. D'abord parce que dans les évangiles, on ne parle pas de Bethléem, on dit Jésus de Nazareth. Que cette localisation de Bethléem, elle est liée comme souvent dans la Bible à des prophéties anciennes. C'est toujours des liens avec ce qui a été dit précédemment. Et il y avait une prophétie d'un prophète, Michée, il s'appelle, qui a vécu 700 ans plus tôt, qui avait dit « Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Judée, mais c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Donc c'était pour répondre à une prophétie. Donc, même la localité n'est absolument pas attestée historiquement. Encore une fois, là non plus, nous n'avons pas, dans les quatre évangiles officiels, de détails précis sur la localisation de la naissance de Jésus, sur le lieu de naissance.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils cherchent, les évangélistes ? Ils ne cherchent pas à dire l'histoire.
Non.
Ce n'est pas leur rôle, quoi.
Les évangélistes écrivent une histoire, je vais employer un mot un peu pédant, mais bon, catéchistique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils montrent, c'est un peu comme ce que vous voyez dans les vitraux des églises, c'est que si vous ne savez ni lire ni écrire, vous devez pouvoir comprendre.
Donc
et ça doit avoir un sens universel et immédiat. Si Jésus naît dans une grotte, c'est pour montrer son humilité. Si Jésus naît avec des animaux, ça renvoie aussi à des prédictions et c'est aussi un, comment dirais-je, une façon très appuyée de montrer que les animaux peuvent comprendre et admettre des choses que l'être humain ne perçoit pas immédiatement.
Donc on ne cherche pas l'histoire, mais une histoire en fait. C'est une histoire.
C'est une histoire dans laquelle, il y a beaucoup de symboles.
Donc par exemple, le bœuf et l'âne, c'est ce que vous venez de décrire.
Bien sûr, le bœuf et l'âne, puis ce n'est pas un hasard. Le bœuf, c'est l'animal à l'époque qui est le meilleur ami de l'homme, parce que bien au-delà du chien, c'est l'homme du travail quotidien. Et l'âne, contrairement aujourd'hui, il n'a pas du tout une image négative. Mmh. Il a la réputation d'être extrêmement endurant, fidèle et loyal. On a réuni ces animaux, mais on les a réunis aussi. Ce n'est pas un hasard, le bœuf et l'âne. Parce que là aussi, ça renvoie à un texte, on appelle ça apocryphe. Ça veut dire que l'Église catholique ne l'a pas reconnu. Et ce texte qu'on appelle le pseudo-Matthieu, il dit, il y a une prophétie avec Ésaïe, un bœuf reconnaît son propriétaire et un âne, la mangeoire chez son maître. Ce qui dit bien que ces deux animaux-là, ils ont d'emblée perçu la nature divine, pour les évangélistes, de l'enfant Jésus.
Et les trois gars sympas qui viennent amener des cadeaux aux nouveau-nés, on a Melchior, Gaspard, Balthazar, ce sont les trois rois mages. Ils ont existé ?
Ah non, je suis désolé. En réalité, c'est un symbole. D'abord, c'est des païens, ce sont des orientaux, donc ce ne sont pas des chrétiens. Enfin, vous me direz, il n'y a pas de chrétiens à l'époque. Mais ils sont païens par excellence, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont. Est-ce que ce sont des astronomes, des savants ? Est-ce que ce sont vraiment des rois ? Ils incarnent un pouvoir. Seulement, voilà, ils sont guidés par une étoile, donc c'est céleste, et ils sont guidés en tant que païens, d'un pouvoir païen à un autre pouvoir qu'est le pouvoir chrétien. C'est ça que ça signifie. Et je vous rappelle que les trois que vous venez de citer symbolisent chacun quasiment les continents de l'époque. Donc ça veut dire que l'universalité va vers Jésus.
Et puis leur cadeau a du sens aussi. Ils viennent
bien sûr
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
De l'encens et de la
myrrhe. Alors c'est quoi le sens ?
L'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on peut faire comme offrande la plus importante et la plus noble. L'encens est évidemment religieux, puisque c'est par l'encens que l'on célèbre les cultes. Et la myrrhe, c'est très simple, c'est l'humanité de Jésus. Parce que la myrrhe, ça servait à soigner les blessures humaines. Donc ça renvoie à la troisième dimension de Jésus, qui est celle de l'homme mais aussi du Dieu par l'or et l'encens.
Mais au fait, depuis quand les chrétiens fêtent-ils Noël ? Réponse dans un instant sur RTL. Il nous faut un peu de temps pour digérer tout ça. Hein ?
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
RTL.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et Franck Sinatra pour nous accompagner, puisque nous sommes avec notre consultant.
Ah oui.
J'y venais en histoire, Pierre Baron, notre sociétaire, qui n'a pas exactement le physique de Franck Sinatra.
Et non.
Peut-être la voix, vous voyez, quand même, vous avez une belle voix comme ça de basse, ça fonctionne bien aussi. On découvre ensemble le sens et les origines de Noël. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas toujours fêté Noël comme aujourd'hui. Ça date de quand, ça ?
Oh là là ! La période à laquelle on fête Noël, le jour de Noël, c'est très récent, c'est pratiquement le 19e siècle. Ça veut dire que pendant des siècles, dès le Moyen-Âge en fait, on commençait à préparer Noël 4 semaines à l'avance, début du mois de décembre. On en a gardé, nous, une trace aujourd'hui avec le fameux calendrier de l'Avent. Vous savez, où les enfants guettent chaque jour l'apparition d'une nouvelle friandise jusqu'au jour J. Ben ça, c'est vraiment le reflet de cette période-là.
Mmh. Qui est une bonne façon d'apprendre la patience à ses enfants.
Oui, je ne sais pas si c'est efficace, mais bon.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Parce qu'ils n'ont pas fait des trous par en dessous hein, pour récupérer les chocolats. Parce que moi, j'ai fait ça, petite. Hein.
Justement, après, on peut discuter.
Quand ils ne mangent pas plusieurs chocolats d'un coup.
Voilà. On referme cette parenthèse, c'est du vécu.
Et donc, la table aussi. On se met à table, si j'ose dire, à l'heure de l'événement. Les festivités médiévales, il y a beaucoup de charcuterie, on n'en mange pratiquement pas dans l'année, c'est une façon de le marquer des semaines avant Noël. On mange des viandes nobles, comme le bœuf, et surtout on mange l'oie engraissée, déjà, il y a 500-600 ans, ça commence.
L'ancêtre de la dinde d'aujourd'hui.
Oui, parce que c'est seulement à partir du 18e siècle que la dinde qui vient d'Amérique commence à concurrencer l'oie, d'accord ? On boit aussi, alors ça faut le savoir, mais alors sans modération. Hein. Les cantiques et les chants d'ivrognes se mêlent pendant des siècles dans les églises et les campagnes. Hein. On a beaucoup de mal à reconnaître le chant sacré et les chants des ivrognes.
Ça commençait longtemps avant Noël, c'est ce que vous nous expliquez.
Ah oui, oui, hein, oui, oui. Au moins 3 semaines avant, si ce n'est pas un mois, vraiment, tout début décembre.
Et la fameuse date du réveillon, le 24 décembre, Pierre Baron, elle apparaît quand ?
Le 24 décembre, à minuit faisant foi, si j'ose dire. Il était évident que de toute façon, on faisait la messe de minuit. Là aussi, la messe de minuit, puisqu'on en parle, c'est assez tardif. Hein. C'est 6e, 7e siècle avant, il n'y a pas de messe de minuit. Donc c'est venu très tardivement. Il y a quelque chose qui a, d'une certaine manière, impulsé ce début décembre. C'est la Saint-Nicolas. Parce que la Saint-Nicolas, c'est aussi, entre autres, le saint des enfants. Donc ça a aidé à cette préparation de Noël. Mais d'un point de vue strictement religieux, bien avant cette célébration de Saint-Nicolas, encore une fois, Noël, c'était aussi l'affaire d'une préparation. On en retrouve des traces dans l'histoire. La trêve de Dieu de Charlemagne, c'est bien cela. C'est bien de dire, de demander, comme nous on appellerait ça la trêve des confiseurs aujourd'hui, de façon plus moderne. Mais la trêve de Dieu chez Charlemagne, c'était simplement de dire que pour accompagner la naissance de Jésus, on allait demander à tous les belligérants de suspendre la guerre pendant 10, 15 jours, 3 semaines de paix autour de Noël. Et ça a plus de 1000 ans de tradition, en tout cas chrétienne.
C'est quoi les valeurs qui sont associées à la fête de Noël ?
L'espérance d'abord. Il y a deux grands temps forts dans la vie chrétienne. Encore une fois, la naissance et la résurrection, c'est Noël et Pâques. À Noël, il fallait installer encore une fois ce Jésus au centre d'une tradition. Mais encore une fois, on ne le trouve pas seulement avec Mitra et Sol Invictus. Vous savez que la plupart des églises, de nos églises, notamment les églises romanes, 8 fois sur 10, sinon plus, elles sont implantées sur d'anciens temples païens qui étaient consacrés de façon païenne. Parce que les païens, en l'occurrence les Romains chez nous, à la période gallo-romaine, considérer que c'était des lieux avec une influence où l'esprit soufflait. Et on a repris ces lieux. Et les églises n'ont pas été bâties ex nihilo, elles ont été bâties sur l'endroit où on célébrait Mars, Vénus, Apollon. Ce n'est pas tout à fait, si vous voulez, anodin. Voilà.
Pierre Baron, les cadeaux que l'on s'offre, soit le 24 au soir, soit le 25, ça aussi, ça dépend de la patience.
Ça dépend des familles.
Ça dépend des familles, c'est toujours tout un débat. Ça vient des rois mages ?
Oui, en partie, il y a ça. Il y a quand même la tradition des rois mages. Et puis, on parlait de la Saint-Nicolas tout à l'heure. Il y a cette tradition qu'on célèbre dans beaucoup de pays en Europe, et puis dans certaines régions de l'Est notamment, et nord de la France, qui est que c'est une tradition médiévale. Le jour de la Saint-Nicolas, donc c'est début décembre, un enfant est nommé l'évêque des enfants. Avant, dans le Moyen-Âge, on appelait ça l'évêque des fous. Mais ce jour-là, il est l'évêque des enfants. Alors, il va avoir l'immunité et le pouvoir des enfants ce jour-là. Et donc, ce jour-là, on va remettre aux enfants, symboliquement, des friandises, des biscuits, des petits joujoux. Et ça va partir de là. Mais attention, il n'y a pas que le Père Noël. Parce que dès ce moment-là, apparaît tout de noir vêtu, avec une grande trique, le Père Fouettard. Lui est associé tout de suite.
Vous avez dit Père Noël, mais c'est Saint-Nicolas, là, pour
oui,
l'instant.
Oui,
il y a Saint-Nicolas et le Père
Saint-Nicolas,
Fouettard.
D'accord. Vous avez le Père Fouettard.
D'accord.
Et de même qu'avec le Père Noël, évidemment, vous aurez le Père Fouettard.
Il fait quoi, le Père Fouettard ? Le Père, il reprend les cadeaux ou...
Alors, le Père Fouettard, il les menace très sévèrement. Non, il ne reprend rien du tout. Ah. Mais lui donne des corrections. Donc il est censé leur donner des fessées ou de les battre avec son bâton.
Il n'a pas été sage.
Vous avez dit Père Noël parce que Saint-Nicolas, c'est l'ancêtre du Père Noël.
Oh oui,
façon,
en grande partie. Pas seulement parce que, regardez bien, Saint-Nicolas, c'était un évêque. Il a le costume de l'évêque. Après, un peu plus tard, ça changera, j'allais dire, aux marges. C'est-à-dire que sa mitre deviendra un bonnet. Et puis souvent, bien plus tard, au 19e siècle, la crosse deviendra un grand sucre d'orge. Mais pour le reste, il ressemble énormément à Saint-Nicolas tel qu'on peut le voir dans les fêtes européennes.
Ouais. Et est-ce qu'il était habillé en rouge et en blanc ? Et est-ce qu'une célèbre marque de soda a trouvé ses couleurs ? On va vous répondre dans un instant, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un film que vous allez forcément revoir en cette période de Noël. Le Père Noël est une ordure.
On peut pas y échapper.
Sinon, Thomas Hugues, il a la cassette VHS depuis.
Ah oui, ça, c'est
mon
film culte et je crois que je connais beaucoup de répliques par cœur.
Ce soir, on raconte l'histoire de Noël et de ses traditions. Nous sommes avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Évidemment, Noël, c'est devenu une fête de la consommation des grands magasins. Et puis, un personnage qui joue un rôle central dans cette foire aux cadeaux, c'est le Père Noël. Alors, où a-t-il trouvé et son traîneau et son habit rouge avec sa hotte et sa longue barbe ?
Sous la plume d'un pasteur américain, Clément Clark Moore, qui imagine le personnage de Santa Claus, dans un conte pour enfants publié en 1823 dans un journal, Sentinel, de New York. On a un petit bonhomme. Pas un petit, il est quand même un peu imposant. Hein. Avec un ventre bien rebondi, un aspect plutôt jovial. Il a un bonnet, donc, à la place de la mitre d'évêque de Saint-Nicolas. Sa crosse, c'est un sucre d'orge. Et il se déplace dans les airs, dans les traits de cet illustrateur, sur un traîneau tiré par des rennes.
Ah, il y a déjà cette
tout.
Symbolique.
Tout est là. Il lui manque une chose, il lui manque son costume. Ça va arriver dans la foulée, dans les années 1860. On a un autre illustrateur américain qui s'appelle Thomas Nast, qui lui destine ce costume rouge qu'on connaît. Rouge flamboyant. Et donc voilà, si j'ose dire, le Père Noël habillé pour l'hiver. C'est tous les hivers, si vous
D'accord,
voulez.
D'accord, voilà. Donc ce n'est pas la célèbre marque de soda qui a donné sa couleur au Père Noël.
Pas du tout, c'est une idée reçue. Par contre, c'est sûr que le Père Noël, si vous me permettez cette expression, c'est un extraordinaire client pour la publicité. Dès le départ, il les réclame. Dès la fin du 19e, quoi, 1866... Le Père Noël, il fait un carton. Il y a des grandes campagnes pour les pneus Michelin, pour Colgate. Et puis, bien sûr, des campagnes massives où on retrouve toujours cet habit et ce look qu'on lui connaît aujourd'hui. L'idée est reçue sur Coca-Cola, elle vient du fait que c'est bien plus tard, c'est dans les années 1930, en 1931, Coca-Cola a des petites difficultés. Ils ont une baisse de vente et ils manquent de souffle et ils cherchent à se relancer. Ils vont donc faire une campagne massive en reprenant ce personnage du Père Noël tel qu'il avait été redéfini. Et ça va non seulement pas l'inventer, mais ça va considérablement le populariser aux États-Unis et dans le reste du monde.
Et partout sur la planète.
Oui, les cartes de vœux et partout sur la planète.
Et il reste toujours rouge, ce Père Noël, dans les yeux des publicitaires ?
Ah oui, au départ, je dis bien au départ historiquement, il est passé d'un costume un peu brun, mais depuis le 19e siècle, il a toujours été rouge.
Pourquoi il dépose ses cadeaux au pied d'un sapin? Ça vient d'où le fait d'avoir un sapin dans nos salons là?
Ah bah c'est...
Qui a eu cette drôle d'idée? Parce qu'il faut se le coltiner, le sapin, quand même.
Le sapin, c'est presque une histoire de guerre de religion. Parce que le sapin, c'était, dès le 15e siècle, c'était une habitude des familles protestantes. D'accord? Et l'Église considérait que c'était païen. Pourquoi? Parce que les Romains, les Celtes, célébraient aussi le soleil avec des branches d'épicéa. Donc pour eux, si j'ose dire, ça sentait le souffle pour l'Église catholique. Par contre, l'Église catholique, elle a encouragé les crèches, elle a encouragé la représentation, dans un premier temps, qu'on fait Saint François d'Assise, de crèches vivantes, et puis après, elle a encouragé les crèches avec des figurines, d'accord, non vivantes.
Avec les santons, par exemple.
Exactement, les fameux santons de Provence, entre autres. Voilà pourquoi on a cette cohabitation, bien sûr, maintenant c'est largement dépassé, et puis qu'on soit protestant, catholique ou peu importe, on a le sapin, et on a la crèche. Mais au départ, c'était vraiment très marqué en fonction de la foi qu'on avait.
Aujourd'hui, Pierre Baron, Noël se fête à peu près partout dans le monde. Ça se fête partout de la même manière?
Oula, non, c'est le climat qui souvent dicte la loi. Hein.
Il y a soit la doudoune, soit le maillot, quoi.
Oui. Par exemple, à Sydney, donc en Australie, la moyenne des températures en décembre, c'est 26 degrés.
Oh, ça nous fait rêver, ça.
Oui, c'est bien, mais bon, faut oublier la cheminée. Quoi.
Il vit en maillot, le Père Noël, non?
Non, il surfe. Il doit surfer, parce que...
Il surfe,
c'est pas possible. Donc, il faut oublier complètement, bien sûr, la cheminée. Et là-bas, ils font d'immenses barbecues sur les côtes en Australie, le jour de Noël. Donc, les cadeaux, etc., ça se passe open air, si j'ose dire.
À l'extérieur.
Voilà, extérieur.
Aux Philippines, tiens, qui est une terre catholique, enfin une terre chrétienne.
Oui, 80 millions de fidèles quand même. Ouais. Hein, c'est pratiquement le deuxième pays d'Asie le plus pratiquant.
Alors, comment ils fêtent Noël là-bas?
Ils ont le record du monde, si j'ose dire, de la durée. On parlait tout à l'heure des fêtes du Moyen-Âge qui commençaient début décembre. Eux, c'est dès l'automne. Hein. C'est-à-dire que dès la fin septembre, on commence à entendre dans toutes les églises philippines des chants qui célèbrent l'Avent. Donc ils sont très très en avance, sans jeu de mots. Et il y a peut-être un reste aussi des colons, c'est que 9 jours avant Noël, ça c'est les premiers missionnaires, on dit les messes en espagnol aux Philippines. Voilà, c'est aussi une façon de célébrer l'histoire ancienne des missionnaires espagnols qui étaient arrivés les premiers.
Et si on part fêter Noël aux Caraïbes, dans les Antilles françaises, on savoure un petit ponche un peu spécial, c'est ça?
C'est pas un petit ponche, ça s'appelle le shrub. C'est
peut-être pour ça que j'ai écrit petit ponche.
Le shrub.
Le shrub, mais peut-être que j'en ai trop bu, alors je ne prononce pas comme il faut. C'est une liqueur à base d'orange macérée. Et on boit ça en rentrant de la messe de Noël. Mais ce qui est très beau, si vous allez aux Antilles à ce moment-là, ce sont les palmiers, parce qu'ils sont ornés de guirlandes, de lumière, et ça donne sur les plages un aspect absolument extraordinaire.
Voilà. Ouais, c'est joli.
Alors, mais encore une fois, si vous voyez des arbres allumés, c'est pas parce que vous avez bu trop de liqueur, hein, c'est normal.
De shrub.
Mais encore une fois, que mes amis antillais me pardonnent pour la prononciation.
Ils sont tolérants. À Cuba, tiens, Cuba... pays communiste, est-ce qu'on peut fêter Noël?
Le problème, c'est que officiellement, on ne peut pas. Être membre du Parti communiste cubain, par définition, il faut se déclarer athée. Donc Noël n'a pas de sens. Pour autant, les Cubains fêtent aussi Noël. Ils ont une façon de le fêter qui est surtout très alimentaire, en y introduisant des mets et des repas particuliers à cette fête-là. Mais c'est très clandestin, et même si, on le voit, il y a une libéralisation du pays... Ça ne passe que par la table, Noël à Cuba, si j'ose dire. Il y a bien sûr quelques célébrations, mais ça ne se manifeste pas plus que ça.
Et on termine cette célébration de Noël peut-être par une pensée pour les chrétiens d'Orient, Pierre Baron.
Oui, peut-être et même sûrement, parce que pour eux, c'est l'épiphanie, donc c'est le 6 janvier, le jour de Noël pour les chrétiens d'Orient. Et compte tenu de ce que ces gens vivent à cause de leur foi, tout simplement, et des persécutions dont ils sont victimes, je dirais comme Aragon, que l'on croit en Dieu ou que l'on n'y croit pas, on a une pensée pour eux, voilà.
Merci beaucoup, Pierre Baron, d'être venu nous éclairer de la lumière autour de Noël. C'est évidemment l'un des symboles de cette fête. Bonne fête à vous, bonne fête de
Noël.
Bonne
fête à tous.
Merci les auditeurs d'RTL.
Vous écoutez RTL.